CFM Villefranche, le MAG.
Le MAG, magazine d'actualité, de bon début de semaine. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre un lundi sur deux. C'est ou Didier Vallée en studio ou Waldo Stephen. On parle soit de MTC, de médecine traditionnelle chinoise, de réflexologie plantaire. Des fois, on va faire un petit tour dans la pharmacopée. Et puis, des fois, c'est Didier Vallée. Et bim, la grande roulette du hasard, pas tout à fait, tombe aujourd'hui sur Didier Vallée pour la rubrique chronique, émission en tout cas, bimensuelle des hommes, des plantes et de la biodynamie. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie en biodynamie. Mmh. Avant toute chose, avant de parler, alors on était à la famille des barbapapas, j'allais dire, non, les papas veracés, nouvelle famille que vous nous proposez d'explorer depuis deux semaines, hein, c'est tout nouveau, après les rubiacées, les boraginacées. Les ombellifères, j'allais oublier, les labiacées,
pas mal,
oui. Oui, les rosacées aussi. Voilà, les papas veracées. Dans la famille des papas veracées, il y a les coquelicots et il y a les pavots aussi. On a survolé tout ça la semaine dernière. Vous allez, j'ai cru comprendre, nous en reparler un petit peu de cette semaine. Un petit point, un petit mot. Le fin du printemps, chahuté ce printemps.
Oui, oui. Ces dernières années, c'est un peu le chahut. C'est le charivari dans les saisons. Et c'est vrai qu'on a eu un printemps avec une période très très chaude des chaleurs estivales sur des plantes jeunes. Donc quelquefois c'était un peu difficile pour elles. Pour nous aussi, parce que pas encore habitués, pas encore dans le rythme de l'été, quelque part. Et il faut voir aussi que au printemps, les jours rallongent, donc jusqu'à la Saint-Jean, hein, jusqu'à fin juin, les jours sont de plus en plus longs. Et donc, c'est en plein été, quand les chaleurs du mois d'août, en fait, sont moins fortes. Elles sont fortes en température sur le thermomètre, mais ça dure moins longtemps parce que les jours sont déjà plus courts. Le soleil se lève moins tôt le matin, il se couche un peu plus tôt le soir, tandis que là, mois de mai, on est vraiment sur l'équinoxe là, et je trouve que c'était un petit peu difficile.
Moi, je me rappelle avoir rallumé la cheminée, hein, mi-mai, je crois.
Alors, par contre, oui, on est passé de 36 degrés à 15 degrés.
C'est d'une violence.
Très grande, oui. Nous aussi, on a fait un petit feu le soir.
Après le week-end de l'Ascension, je crois.
Oui. Donc, tout ça pour... les plantes sont plus résistantes que nous, quelque part, mais sur les jeunes plantes, quand même, on reparlera des sols, parce que faut leur donner un habitat pour leurs racines qui soient vraiment bien, pour qu'elles supportent ce genre de traumatisme.
De variation de température. Qu'est-ce qu'on a observé en ce moment, en pleine nature ou même au jardin? Est-ce qu'il y a des plantes ou des fleurs qui se distinguent?
Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. En ce moment, c'est même la période la plus riche. Le mois de juin, là, on est dans le tilleul, on est dans la lavande qui commence à fleurir, la sauge a fini de fleurir, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Les coquelicots cette année ont duré vraiment très très longtemps, parce que c'est vrai que le coquelicot n'aime pas trop la pluie, et là il a eu un beau temps, et on a récolté du pétale de coquelicot pendant pratiquement un mois, avec c'est un buffet des insectes. Je parlerai de ce nom-là, mais c'est vrai que le matin de bonne heure, au lever du soleil, il y a un nuage d'insectes dans ces coquelicots qui se remplissent de pollen tout noir sur les pattes. Ils sont chargés à fond, et c'est quand on ramasse, on est vraiment au milieu des insectes. C'est encore plus que quand on récolte de la lavande, c'est assez impressionnant. On n'aurait pas l'impression en voyant cette plante.
Là, les coquelicots, c'est trop tard pour en semer, hein, ou on est passé plutôt quoi, en mode tournesol, là, il y a du chaud,
oui,
ça sera plus ça.
Oui, là, on peut encore faire du tournesol, des choses comme ça. Bon, le coquelicot, après, du semis actuel, ça peut pousser en fin de saison, quelque part, mais bon, c'est vrai que les graines de coquelicot, elles tombent actuellement sur le sol pour repousser l'année prochaine. Mais voilà.
Allez, des hommes des plantes et de la biodynamique chronique bimensuelle avec Didier Vallet. On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre aventure autour de la famille des papaveracées, où on retrouve le coquelicot, mais aussi le pavot. C'est ça, hein, le programme, Didier. Allez, à tout de suite. Stars are hiding in the way. Vous venez de nous rejoindre, édition du magazine d'actualité du lundi que je partage aujourd'hui avec Didier Vallet, spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie en biodynamie. Didier, en ce moment, fredonne et chuchote à l'oreille des pistils, parce que alors là, il y a affaire hein, dans tous les sens. Une nouvelle famille depuis deux semaines, le lait, la famille des Papa Veracé. On avait juste survolé hein, il y a deux semaines.
Oui, totalement. Donc, on avait quand même pas mal parlé du coquelicot, donc cette jolie plante qui égaye nos jardins. Disons, c'est une plante plutôt sauvage. Quand on sème pour des fleurs, on met plutôt, on va semer des pavots. Ça fait des gros coquelicots, beaucoup plus jolis, beaucoup plus gros. Le coquelicot, il est vraiment sauvage. On le trouvait dans le temps dans les champs de blé. C'est vraiment une plante qui se ressème sur des terres cultivées, comme le bleuet. Ça va pas semer dans des prairies. On ne va pas le trouver dans les foins, on ne va pas le trouver dans les prairies, on le trouve sur le bord des routes, on le trouve quelquefois, il peut y avoir derrière un céréal, mais s'il y a une prairie, mais derrière un céréal, ça peut être rouge de coquelicot. Voilà, il a besoin d'une terre qui a été un peu bouleversée. Je pense qu'il est là aussi, quelque part, pour remettre de... C'est un peu une plante pionnière, quelque part. Ce qu'on appelle les plantes pionnières, ce sont des plantes comme la matricaire aussi, qui vont arriver sur un sol nu. Et j'en parlerai dans 15 jours, je pense. Je voudrais reparler des sols pour nos jardiniers et puis des paysans aussi qui nous écoutent. Le sol ne peut pas rester à nu.
Oui. Oui.
Le sol, naturellement, il va se couvrir. Mmh. Et il ne se couvre pas forcément de plantes qui nous intéressent. Quelquefois, ce sont des plantes un peu indésirables, mais il faut qu'il se couvre. Il ne peut pas rester tout nu. Je ne sais pas si c'est de la pudeur, mais en tout cas, il s'abîme. Il prend des coups de soleil, il prend des coups de chaud, des coups de pluie, tout un tas de choses qui fait que il va vite se dégrader si le sol reste à nu quelque part. Et c'est bien pour ça que on a des gros problèmes avec les désherbants, parce que quand on met beaucoup de désherbants, quand les paysans utilisent beaucoup de désherbants, on laisse un sol à nu et le sol se dégrade très très vite.
Couvrir le sol, ça se fait, ça existe aussi avec des cartons ou des bâches. C'est malheureux de mettre du plastique sur la terre, mais c'est une bonne solution ça ou pas pour travailler plus facilement la terre?
On en parlera peut-être.
Alors vous avez dit autre chose, là c'est matricaire, c'est la camomille matricaire ou c'est autre?
Il y a différentes matricaires, mais c'est vrai que la matricaire camomille, elle pousse aussi un peu comme le coquelicot sur des champs qui ont été travaillés. Ces plantes sont là pour refaire le sol, en fait, pour reprotéger le sol. Alors, un pied de coquelicot, on voit moi qui ramasse les coquelicots, je vois les pieds, ça peut être énorme, un pied de coquelicot.
Ah oui.
Ça peut faire pratiquement un demi-mètre carré en surface. Donc, ça couvre très, très bien le sol et ça fait une racine profonde. On l'arrache pas comme ça, le pied de coquelicot, c'est quand même... Donc, il protège le sol en surface, donc en faisant de l'ombre. Il va travailler le sol en profondeur avec sa racine. Et puis, c'est comme je disais avant, c'est un havre de bonheur pour les insectes. Il y a beaucoup de bourdons dedans, des abeilles aussi. Alors, je pense pas qu'ils y trouvent du nectar, mais ils y trouvent beaucoup de pollen. Donc ça, le pollen, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, et puis c'est une jolie plante. Alors on avait vu la dernière fois que c'est comme le pavot, hein, le pavot dont on tire la morphine hein, pour endormir en fait, hein, pour couper la douleur, couper la conscience en fait, un petit peu. On en tire aussi des drogues, ça c'est autre chose, pour avoir des états de conscience différents. Le coquelicot, lui, il est somnifère. Hein, et puis, très, très... Si vous récoltez, si vous vous amusez à récolter les pétales de coquelicot, vous verrez comment c'est doux, c'est comme oui. Un peu du velours, c'est vraiment très très doux. Quand on a un panier de pétales de coquelicot et qu'on plonge la main dedans, c'est très très, très
satisfaisant,
agréable.
Dirait ma fille. Hein? C'est satisfaisant.
Oui, oui, c'est très agréable. et donc, voilà, pour tout ce qui est irritation de la gorge, on a parlé pour la coqueluche, pour... c'est vraiment une plante intéressante. Alors, on avait commencé à aborder aussi alors, un autre pavot qui est ce qu'on appelle le pavot de Californie. Le nom scientifique, c'est Escholtzia. Escholtzia. C'est un nom un peu barbare, je ne sais pas d'où ça vient. Qu'on voit souvent dans les plates-bandes fleuries, dans les jardins, sur les bords de route. Alors c'est pareil, hein, y a un pied à côté de chez moi, chez mes voisins, là, qui pousse dans le goudron, qui pousse dans les caillasses, hein, comme le coquelicot. Hein, le coquelicot, on peut le trouver vraiment il va aller chercher en dessous, cette force de perforation de la racine est assez étonnante. Et donc le pavot de Californie, il est de couleur orange, donc ça ferait un petit peu coquelicot, c'est un peu plus bas comme plante, un peu plus bas que le coquelicot, parce que le coquelicot, quand même, il monte à 60, 70, voire 80 cm de haut. C'est assez haut. Le pavot de Californie, il reste à 30, 40 cm de haut. C'est beaucoup plus bas et un peu retombant aussi. Donc, c'est pas... Le coquelicot fait des tiges très rigides. Le pavot de Californie fait des tiges beaucoup plus molles, beaucoup plus souples, qui ont tendance à retomber vers le sol. Donc ça, c'est... Alors, comme le coquelicot, c'est aussi une plante très somnifère. Ce sont des plantes qu'on utilise dans des mélanges pour dormir, pour faire des nuits, calmes et sereines. On peut le... Autant le coquelicot se distille pas, le pavot de Californie, on peut faire des hydrolats. Il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Mais on trouve des hydrolats, des scholtzia qui vont aider à calmer.
Puisqu'on est dans la décontraction et le sommeil, est-ce qu'il y a des plantes pour faire des rêves en gros, en grand, en large, des plantes à rêve, ça existe?
Justement, ces plantes-là, le pavot et le coquelicot,
ça favorise.
On les utilise, nous, je l'utilise dans un petit mélange que j'appelle un fur rêve. Bien amené.
Un fur rêve.
Faudrait reparler des rêves. Qu'est-ce que le rêve? Est-ce que c'est un voyage ailleurs? Est-ce que c'est une réminiscence de la vie? Les Indiens d'Amérique analysaient les rêves pour savoir un peu ce qu'ils voulaient dire. Ils voyaient ça comme une communication avec l'au-delà.
Il y a un fur rêve, en tout cas, ça existe.
Voilà. La troisième plante dont je voulais parler, de cette famille des papaveracées, c'est le fumeterre. C'est beaucoup moins connu. C'est une plante, c'est pareil, elle fait... Alors elle est encore, elle s'étale encore plus que le coquelicot, je sais pas, des pieds de fumeterre, ça fait 1 mètre carré, c'est impressionnant. Il y a une racine, la racine n'est pas très grande, ça s'arrache facilement, une racine un peu jaune, et ça fait un feuillage... gris, très, très fin, gris, vert-gris, et des petites fleurs, des petites grappes de fleurs un peu mauves. Et ça passe presque inaperçu, sauf quand c'est en grande quantité. Alors là, pareil, sur des terrains cultivés. Et j'ai compris, je pense avoir compris pourquoi on l'appelait le fumeterre, parce qu'un jour, j'étais à Nantes, dans la vallée de la Dourbie, pas Nantes en Loire-Atlantique, mais Nantes de l'Aveyron, sans heure, et chez un ami maraîcher en biodynamie. Et il avait un champ qu'il avait cultivé, mais là, qui n'était pas encore en culture. Et c'était couvert de fumeterre, mais vraiment, c'était couvert. Et on aurait cru, avec cette couleur, on aurait cru qu'il y avait de la fumée qui sortait de terre. C'était une couleur un peu fumée. C'était le matin avec le soleil un peu rasant. Donc voilà, cette plante, ce fumeterre là. Alors, lui, contrairement au coquelicot et au pavot, il n'est pas spécialement somnifère. Bon, il n'est pas excitant, mais il est plutôt dépuratif pour nettoyer l'organisme, nettoyer le foie.
Une de
beaucoup
plus.
Au niveau du foie. Et très souvent, les plantes dépuratives, on les trouve au printemps. Et le pissenlit, le fumeterre, c'est pas des plantes de l'automne, des plantes de l'été, même si vraiment le romarin, c'est des plantes qui s'expriment au printemps.
La reine des prés aussi.
La reine des prés n'est pas dépurative. La reine des prés, elle est, on la récolte. Là, on commence à la récolter en ce moment, oui aussi. Et elle est diurétique, hein. Quelquefois, les gens le prennent pour maigrir parce que c'est diurétique, donc ça fait uriner, ça fait enlever les liquides en fait, hein. Ça fait partir les liquides du corps et ça fait pas partir les graisses, hein. C'est plutôt les liquides quand on a un peu d'hydropisie, mais on est un peu enveloppé, disons. Et puis, elle est contre les inflammations, elle est anti-inflammatoire. Donc, la reine des prés, on va l'utiliser contre les rhumatismes, des choses comme ça, anti-inflammatoire. Parce qu'elle contient... Alors, l'ancien nom de la reine des prés, c'est la spirée. Et c'est de là que vient le terme aspirine.
Ah, d'accord.
Le nom aspirine vient du nom de la plante, parce que la première fois qu'on a extrait l'acide salicylique, on l'a extrait de cette plante, et ensuite on l'a extrait de l'écorce du saule. C'est pour ça que ça s'appelle salicylique, ça vient du saule. Et c'est donc un anti-inflammatoire, mais qui n'a pas les inconvénients de l'aspirine, qui est... acide, et quand on met un acide dans un milieu acide qui est l'estomac, on augmente l'acidité de l'estomac et il peut y avoir des problématiques, tandis que là on l'a pas du tout. Mais par contre, la reine des prés, quand on veut la faire en anti-inflammatoire, faut vraiment pas la faire dans l'eau bouillante, parce que au-dessus de 70 degrés, l'acide salicylique est détruit. Ouais. Donc, faut faire dans de l'eau frissonnante. Autrement, vous avez une tisane qui est diurétique, mais qui ne sera pas anti-inflammatoire, qui n'agira pas contre les douleurs. Les douleurs rhumatismales, voilà, ce genre de choses.
Pardon, Didier, je vous ai emmené sur la reine des prés, qui, je l'imagine, ne fait pas partie de la famille des papaveracées.
Non, hein, alors elle fait partie de quelle famille?
Je ne dirais pas les labiacées, quand même.
Non,
une famille.
Tout.
Est-ce que. La dernière fois, les orties, j'ai découvert.
Oui. Il faudrait que j'apporte les feuilles et là tu reconnaîtrais. Ah. C'est une rosacée.
Ah d'accord. Part.
C'est une rosacée. D'accord. On en a parlé au moment des rosacées.
Oui.
Et la feuille ressemble vraiment à la feuille du framboisier, à la feuille de la ronce. Voilà. Donc, alors, le fumeterre, voilà, c'est une plante très peu connue, mais qui mérite à être connue, qui est, voilà, qui, pour nettoyer l'organisme au printemps, au moment où elle fleurit. Là, j'en ai encore actuellement dans le jardin, en train de pousser, de fleurir. Donc, mais c'est vraiment, il n'y en aura plus en été après.
Coquelicot, pavot de Californie, donc le fumeterre dans la famille des papaveracées, à retenir pour dans 15 jours pour la suite de la chronique des hommes des plantes et de la biodynamie, toujours autour de la famille des papaveracées.
Je pense que dans 15 jours, je vais m'adresser plus aux jardiniers et on va reparler un peu de ce qu'il y a sous nos pieds.
Allez, on se donne rendez-vous le 29 juin pour notre nouveau rendez-vous. Merci Didier, des hommes, des plantes et de la biodynamie.
Au revoir.
CFM Villefranche, le mag.